Livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2 à partir du verset 8. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit. Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs. Et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit.
Nous voulons tenter l'épreuve, chers amis, c'est-à-dire revenir sur ce livre de l'Apocalypse que nous avons déjà considéré ensemble dans le début de son exposé. Nous voulons essayer de le faire succinctement et rapidement, sans prendre au-delà d'un temps qui est normal en faveur de nos frères qui sont venus de l'étranger pour nous aider. Nous rappellerons donc brièvement quelques traits essentiels. C'est un livre particulier, le dernier de la parole de Dieu, une révélation. Retenons ce terme parce qu'il illustre tout le contenu du livre, une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver. Et il l'a signifié à son esclave Jean pour nous le communiquer. Donc, nous devons considérer que le mode de communication par lequel ce livre nous est donné est tout à fait différent des autres livres du Nouveau Testament. Pour nous faire comprendre, disons que le Seigneur n'est pas vu dans ses soins en faveur de l'Assemblée, s'occupant d'elle comme étant son corps et faisant descendre du ciel tout ce qui est nécessaire pour son édification, pour ses progrès et pour le témoignage qu'elle a à rendre dans ce monde. Ce n'est plus, a-t-on dit, le sacrificateur qui vient verser de l'huile, image du Saint-Esprit, dans chacune des lampes du chandelier. Au contraire, maintenant, le Seigneur a pris une position de distance par rapport au chandelier, par rapport aux lampes, aux assemblées, au milieu desquelles il se tient, non plus pour s'occuper d'elles en bénédiction, mais pour voir, pour apprécier la manière dont les lampes ont brillé pendant son absence. Alors, nous n'avons pas dans le livre d'Apocalypse, par exemple, de citation de l'Ancien Testament. Chacun a remarqué cela. À part quelques épîtres de l'apôtre Paul, Jude et quelques livres du Nouveau Testament, nous avons des citations de l'Ancien pour montrer la liaison qu'il y a entre les pensées de Dieu de l'Ancien Testament qui prennent leur vraie dimension dans le Nouveau Testament. Mais ce livre, contrairement aux autres parties du Nouveau Testament, est une révélation que nous ne pouvons pas connaître, que nous ne pouvons pas comprendre sans que ce contenu nous soit révélé. Et le mode de communication, vous voyez, est très différent. Dieu a donné à Jésus-Christ une révélation, Jésus-Christ la donne à un ange, l'ange la donne à Jean, comme esclave, non plus comme le disciple que Jésus aimait, disciple qui s'occupait de la famille de Dieu, et ensuite aux esclaves, ce que nous sommes vus dans ce livre. Alors ce livre, chers amis, a été donné à la fin du premier siècle, où il faut bien tenir compte de cela pour saisir un peu l'étendue, c'est-à-dire le contenu du livre. Ce livre nous a été donné à la fin du premier siècle, lorsque l'Église est déjà dans un état de chute. Et d'une chute tellement grave que Dieu doit employer cette manière de communiquer que nous venons d'indiquer. En effet, dans l'Église à Éphèse, nous avons le commencement de la ruine qui nous a atteint, qui s'est développée et qui a pris aujourd'hui les proportions qui nous font souffrir, qui nous atteignent tous, parce que tous nous sommes responsables de cet état de ruine. Nous y reviendrons. Mais vous voyez, dans l'Église à Éphèse, où il y avait tant de bonnes choses, qui a été privilégiée de tant de manières, elle est, dans le Nouveau Testament, le symbole de l'Église tout entière dans son existence sur la terre. À partir du commencement, à partir des travaux de l'apôtre, l'apôtre est resté 3 ans à Éphèse. Il a écrit une épître remarquable dans laquelle il peut déployer tout le conseil de Dieu. Il a réuni les anciens pour les avertir. Il a envoyé Timothée. Rien n'a manqué de la part de Dieu en faveur de cette assemblée. Et il y avait encore des choses remarquables chez elle. Il y avait encore des œuvres, il y avait encore du travail, de l'activité. Mais ces vertus n'étaient plus reliées à la source, au moteur qui leur donne l'impulsion. C'est une chose très importante. Mais le Seigneur, chers amis, constate plusieurs choses, 7 sans doute pour le moins, qui sont encore des choses agréables au sein de cette assemblée, bien que, malgré le fait qu'il y ait encore de l'eau dans le lit du torrent, la source a tari. Et bientôt, le torrent sera tout à fait sec en relation avec l'absence d'alimentation de la part de la source. Et quel est l'élément intervenu qui va rompre cette manifestation de la grâce de Dieu au milieu d'eux et des vertus que le Seigneur apprécie? Et il ne manque pas de le signaler. Il commence toujours par retenir à notre égard ce qui est convenable, ce qui est agréable, ce qui plaît à son cœur. Ensuite, le Seigneur introduira la répréhension. Cependant, dira-t-il à un roi de l'Ancien Testament, cependant, Dieu a trouvé de bonnes choses encore en toi. Le prophète ne se limite pas à condamner l'attitude du roi, la conduite du roi, les activités du roi. Il ajoute cet adverbe, cependant, Dieu n'oublie pas les bonnes choses qui sont par-devers toi. Donc c'est ainsi que Dieu procède dans l'Apocalypse, dans les 7 églises à Éphèse. Nous disons qu'elle est celle à partir de laquelle la ruine est manifestée. Et cette ruine, chers amis, elle tient en une phrase. Et les frères ont souvent médité sur ces églises, sur l'église d'Éphèse, et n'ont pas manqué de préciser que l'assemblée, quand elle a entendu lire la lettre de Jean, plus la lettre de Paul, il y a 30 ans que Paul a écrit la lettre, environ, une trentaine d'années qu'il a écrit la lettre, aux Éphésiens. Mais maintenant, c'est un autre auteur. Pourtant, le disciple que Jésus aimait et qui va introduire, chers amis, dans ce livre, le jugement. Et nous répétons, nous revenons sur la source, cachée encore pour la plupart d'entre eux, mais que les âmes fidèles faisaient souffrir. Et elles ont bien compris la mention de l'apôtre qui soulignait la source de toutes les défaites. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Le premier non pas dans le temps, mais le premier dans sa qualité, la plus belle robe, le plus bel amour. Ce qui est digne du Seigneur, ce qui est digne d'être réservé pour le Seigneur, eh bien, comme il peut arriver qu'un époux constate encore la bonne tenue du foyer, de sa maison, de la part d'une épouse, mais les affections se sont, hélas, sont taries dans une certaine mesure, et bien qu'il y ait encore de l'ordre dans la maison, il n'y a plus, chers amis, ce qui faisait la joie, la communion dans ce foyer. J'ai contre toi. Tu n'es plus ce que tu étais. Et de là survient toutes les fautes, tous les malheurs et toutes les manifestations que nous allons trouver au fur et à mesure que les épîtres sont développées devant nous. Il y a 7 lettres qui sont donc choisies en Asie mineure dans lesquelles Dieu prend dans chacune d'elles un état bien connu et qui correspond à une période de l'histoire de l'Église, sans que personne puisse apprécier dès le départ qu'il y allait y avoir un long espace de temps pendant la période de l'Église sur la terre. On ne peut pas déduire cela de ce que nous avons dans l'Apocalypse. Mais à partir du premier amour, les persécutions chez Smyrne, et puis l'intérêt pour le monde et l'association avec le monde à Pergame, etc. Le Seigneur va nous montrer, chers amis, les différentes phases de l'histoire de l'Église dans ce monde pour arriver à la dernière qui se vante, qui est riche, qui non seulement s'est unie au monde, mais qui le domine, et à l'égard de laquelle le Seigneur dit « Je vais te vomir de ma bouche ». Alors nous allons maintenant laisser la place à nos frères, nous ne voulons pas abuser du temps qui nous est proposé, mais retenons quand même dans le premier chapitre cette manière de procéder à l'égard d'un livre de jugement qui est une révélation. Il n'y avait donc pas de liaison entre des faits de l'Ancien Testament, bien qu'il y ait beaucoup de notions de l'Ancien Testament dans ce livre, mais c'est une révélation, quelque chose qui était inconnu et qui est révélé, qui est donné à connaître à la fin du premier siècle, quand déjà l'état de ruine est consommé dans Éphèse. Bien que dans les faits, il y ait encore des choses acceptables, des choses appréciables de la part du Seigneur, le germe de tout le mal, la cause de tout le mal, se trouve là à Éphèse. Alors, chers amis, bien que nous commencions un livre de jugement dans le premier chapitre, c'est une chose merveilleuse de voir que nous sommes invités à être bienheureux. Premier mot dans ce livre, bienheureux. Pour le fidèle, chers amis, il y a toujours une source à laquelle il peut s'appuyer, à laquelle il peut revenir pour trouver la joie, le bonheur dont il est fait mention ici. 7 fois, nous avons la mention de bienheureux. Livre que l'on a souvent fermé, ne comprenant pas bien les symboles, mais le Seigneur nous encourage à le lire, et à le lire d'autant plus que le temps est proche, et qu'il s'agit d'un livre qui, pour finir, à la fin, Dieu n'oublie pas le propos qu'il a formé à l'égard de Christ et de son Église, un livre qui a pour but d'arriver à la manifestation éclatante de la gloire du Seigneur, qui sera vu là dans la gloire la plus grande, là où il a été humilié, c'est-à-dire à Jérusalem. Ce livre nous conduit jusqu'au moment où les jugements auront eu lieu et où enfin le Seigneur sera là et bien qu'il ne s'agisse plus de l'Église à partir du chapitre 4, vous savez bien cela. Toutefois, parce que c'est un livre de jugement, l'apôtre a fini l'exposé relatif à l'histoire de l'Église, et il montre bien toute une série de jugements, toute une série de faits qui vont se dérouler dans ce monde après l'enlèvement de l'Église et qui vont arriver, qui vont amener la manifestation glorieuse du Seigneur à laquelle l'Église sera jointe comme étant son épouse, sa bien-aimée. Quel sujet de joie, un sujet de joie incomparable. Les noces de l'agneau sont venues, sa femme s'est préparée et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur. Et le fin lin, chers amis, ce sont les justices des saints. Retenons cela. Alors, bienheureux celui qui lit, bienheureux celui qui entend. Au jour où l'apôtre écrit, il n'y avait pas la possibilité parmi la multitude de pouvoir lire. Il y avait un lecteur. Eh bien, bienheureux celui qui lisait cette parole et bienheureux ceux qui l'entendaient. N'en est pas autrement pour nous aujourd'hui. Plus nous serons pénétrés des vérités de ce livre, plus nous comprendrons notre nécessité d'être mis à part de tout ce qui amène le jugement. Et Dieu nous montre le jugement, les raisons du jugement, mais aussi le moyen d'y échapper. Alors, bienheureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, et enfin, en commençant, Jean s'adresse à cette assemblée, il y en avait beaucoup d'autres, mais Dieu a choisi cette assemblée, il n'a pas choisi Antioche, par exemple, qui est une assemblée très importante, mais il a choisi Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, jusqu'à la fin, pour montrer dans chacun de ces états une manifestation de la condition de l'Église. Et en commençant, chers amis, en m'asseyant, n'est-il pas heureux de lire « Bienheureux » et puis « Quoi qu'il en soit ». Nous ne pourrons jamais porter atteinte aux propos de Dieu. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Il devra nous discipliner, ça c'est une vérité. Et ne le fait-il pas aujourd'hui? Et de manière telle, chers amis, que nous sommes amenés à voir la main de Dieu dans ce qui nous survient. Nous aurons l'occasion de préciser tout cela. Et puis, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous. Et qu'un assez grand nombre dorment. Il y a des épreuves sensibles, consternantes dans les assemblées. Pensez-vous qu'elles soient le fait du hasard? Est-ce qu'un croyant intelligent peut parler de chance ou de hasard, chers amis? Mais quoi qu'il en soit, et c'est un encouragement pour nous, et il faut que nous en soyons pénétrés, parce que plus nous serons pénétrés de ce sentiment, mieux nous comprendrons le dessein de Dieu envers nous, et plus nous aurons d'énergie et de force pour aller de l'avant, malgré tous les obstacles. Alors, quelles sont ces ressources? Jean, aux sept assemblées, quel que soit leur état, Jean, cette assemblée, grâce et paix à vous. Donc aujourd'hui, jour de Pâques 1992, le Seigneur nous répète, grâce et paix à vous. Moi, je ne change pas.
Ne saurait assez souligner l'importance de ces deux chapitres, 2 et 3 de l'Apocalypse, concernant la vie de l'Assemblée. Il s'agit donc des choses qui sont. La deuxième partie de ce livre, une lettre adressée, comme cela a été rappelé, à cette Assemblée en tableaux successifs, soulignant l'histoire de l'Église responsable. Et cette responsabilité, comme toujours, est liée au privilège reçu. Et ici, le Seigneur se présente comme celui qui commence le jugement par sa propre maison, selon l'expression de la première épître de Pierre. dans chaque assemblée, il a un caractère qui est propre à parler à chacune d'elles selon l'état qui la caractérise. Et ceci est très significatif. Puis, il commence, ce que fait aussi l'apôtre Paul dans ses épîtres inspirées, par relever le bien qu'il connaît parfaitement dans chacune de ses églises. Nous voyons qu'à Éphèse en particulier, cela a dû être dit déjà, le Seigneur, tout en soulignant les œuvres, le travail, la patience, que cette assemblée ne peut supporter le méchant, il ne peut pas oublier le déclin. Apparemment, tout allait bien, tout allait pour le mieux, sur le plan de ce qui pouvait se voir extérieurement. Mais en fait, comme aujourd'hui, le Seigneur regarde au cœur. Il sait exactement ce qui se passe dans nos cœurs. Et c'est pourquoi il peut souligner ce déclin de cette assemblée qui avait été portée, quant à ses bénédictions, dans le ciel même. Et il peut lui dire, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Le Seigneur nous dit toujours la vérité. Pourquoi cela ? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien. Il suppose toujours que ses paroles auront un écho en chacun de nos cœurs pour nous amener à rectifier ce qui doit l'être dans nos vies. Et moyennant cette repentance qui, pour une assemblée comme pour un individu, correspond à juger le mal et à l'abandonner pour rechercher le bien, pour revendiquer les droits de la vérité, le Seigneur suppose que l'âme va écouter et va tenir compte de ses avertissements. C'est pourquoi, en général, chacune de ces lettres suppose qu'il y a un vainqueur sur le plan individuel, car l'état d'une assemblée correspond toujours à l'état de chacun des saints, l'état moral et spirituel. Tout commence par là. Où en sont nos affections pour le Seigneur? Et le but du Seigneur, c'est de raviver toujours nos affections, de revenir à ce qui est dès le commencement. Nous savons très bien par expérience que nous perdons facilement la fraîcheur du premier amour. Et pourtant, l'amour du Seigneur reste parfait, invariable, infini, éternel. Et ne peut être satisfait que par la réponse de notre amour. Ceci est vrai sur le plan humain, mais combien plus sur le plan de nos affections spirituelles. Donc le Seigneur agit en vue de notre bien, toujours, même s'il nous dit des choses qui paraissent sévères. Reconnaissons qu'elles sont vraies, que lui ne se trompe jamais. Et qu'il veut nous bénir. Mais il ne peut pas nous bénir si nous tolérons le mal, si nous tolérons le méchant. À Éphèse, le méchant était stigmatisé, il était rejeté. Seulement, nous voyons que les signes du déclin étaient là. Et le Seigneur va user d'un moyen pour ramener le cœur des saints vers lui. Moyen qui aujourd'hui est aussi utilisé par le Seigneur, c'est l'épreuve. Après Éphèse, l'aimable, il y a Smyrne, l'amère. Une amertume telle que 10 ans de persécution vont mûrir l'assemblée. Et réfréner cette tendance qui nous est toujours, qui nous caractérise toujours à nous éloigner du Seigneur et à composer avec le monde, tolérer des compromis dans nos vies. Et le Seigneur qui voit cela, en général, utilise l'épreuve pour nous ramener à lui, pour briser en nous ces durs qui s'opposent toujours au chemin de sa volonté. Il veut toujours frayer des chemins dans nos cœurs vers lui, et conséquence bénie vers nos frères, L'un ne va pas sans l'autre. Si nous aimons le Seigneur attend que nous le montrions par notre amour pour les frères, qui peut aller, selon ce que Jean exprime dans sa première épître, jusqu'à laisser notre vie pour nos frères. Donc, Smyrne la mer. Et là, le Seigneur se présente comme le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. Il est là pour parler à cette assemblée en vue d'enrayer son déclin et de raviver ses affections pour lui. C'est ce qui a été produit pendant cette période qui a duré environ 2 siècles, du 2e au 3e et tout au début du 4e siècle. Une série de 10 persécutions ont atteint l'Église. L'Église a été visitée par la persécution venant des autorités. L'ennemi était suscité par de la part du Seigneur au dehors. Et nous savons combien d'âmes ont laissé leur vie pour le Seigneur. Nous avons des témoignages à cet égard extrêmement émouvants et combien touchants. Nous pouvons mesurer le chemin parcouru moralement pour ce qui nous concerne. Il y a peut-être aujourd'hui aussi des témoins du Seigneur qui connaissent les épreuves de Smyrne. Il peut y en avoir aussi dans nos assemblées, ne l'oublions pas. Et cette épître ne concerne pas que le 2e et le 3e siècle. Dans toutes les générations de croyants, il y a eu des âmes qui ont été profondément éprouvées. Et là où la foi existe, le Seigneur se magnifie en l'épurant, en l'affinant, pour ainsi dire. Les épreuves ne sont pas toujours liées au gouvernement de Dieu, quoique la chose soit vraie. Il y a aussi cet autre aspect où le Seigneur nous éprouve pour se glorifier, mettre en évidence cette foi qu'il nous a communiquée, une foi de pareil prix. Nous le voyons dans le cas des 3 amis de Daniel, dans quelle fournaise ils ont été et combien Dieu a été glorifié par leur foi. Une foi qui nous édifie dans son expression. La foi édifie toujours dans tous ses mouvements. Et cela nous permet d'apprécier nos frères et nos sœurs comme étant ceux pour lesquels Christ est mort. Ceux qui sont prêts à donner leur vie pour leur maître. Et tous les apôtres l'ont fait, nous pouvons le penser d'une façon générale, mais aussi combien d'autres croyants. Le sang des martyrs, comme le disait un homme célèbre, a été la semence de l'Église. Et l'Église ne s'est jamais aussi bien portée sur le plan de ses affections pour le Seigneur, non pas tant de la connaissance, mais de ses affections pour le Seigneur, que lorsqu'elle a été véritablement éprouvée au creuset de l'affliction. Il y a eu là un spectacle pour le cœur du Seigneur du plus haut prix. Et nous pouvons considérer ce que le Seigneur dit, lui qui est passé par ce chemin-là, et qui détient toute autorité, même lorsqu'il lâche la bride à Satan, et cela peut arriver, le Seigneur lui assigne des limites, car Satan est aussi une créature, sans doute extrêmement intelligente, et utilisant cette intelligence pour déployer toutes ses ruses pour séduire les croyants, mais des limites lui sont assignées, comme nous le savons dans le cas de Job. Dieu lui dit jusque-là et pas au-delà. Et c'était vrai aussi pour ces croyants qui ont eu des temps d'accalmie alternant avec les périodes des persécutions. Le Seigneur lui-même se présente à cette assemblée comme celui qui a été mort et qui a repris vie. Lui-même donne l'exemple de quelqu'un qui est mort pour la vérité. Voilà, on peut donner ce sens au fait que le Seigneur est mort comme un martyr, si on peut dire. Ce n'est pas la seule raison, nous savons, il fallait son œuvre expiatoire pour le rachat de nos âmes. Mais il est la vérité et il a défendu les droits de la vérité jusqu'à la mort. Et il reste le modèle parfait sur ce plan pour tous ces rachetés qui passent par ce chemin-là. Et il peut leur dire, eh bien, Je connais. En général, le Seigneur commence par relever l'exercice profond dans lequel se trouve l'assemblée. Je connais, je sais toutes choses. Le Seigneur peut dire de chaque assemblée, je connais ce qui se passe dans ton sein. Je sais ce qui te fait souffrir, ce qui te peine, ce qui t'éprouve. Eh bien, je connais ta tribulation, ta pauvreté, mais tu es riche. Riche en foi, riche en Dieu, riche dans la communion avec le Seigneur. Pauvre quant au monde, des êtres méprisables qui souvent étaient livrés aux bêtes féroces dans les arènes, comme le savons, sous le regard cruel de ceux qui les livraient ainsi à de telles tribulations. Tu es riche et l'outrage de ceux qui se disent être juifs. Il y avait là des ennemis aussi qui remettaient en honneur les systèmes religieux que Dieu avait mis de côté, cette religion juive dans laquelle tout était pour le regard de l'homme naturel, nous le savons bien, tout un cérémoniel imposant, mais le Seigneur avait mis de côté ce régime de la loi. Et c'est ceux qui voulaient faire revivre ce système religieux, eh bien, étaient des ennemis. Nous le voyons, le Seigneur doit dire, ils sont la synagogue de Satan. Eh bien, ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voilà une parole qui a dû encourager ces croyants. Parce que cette Smyrne même a été le lieu où de véritables persécutions se sont passées, dont l'histoire nous fait état. Eh bien, le Seigneur avertit toujours son Église qu'il aime. Il lui révèle ce que sera son sort en traversant ce monde. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Nous restons une minorité méprisée, haïe du monde, si nous sommes fidèles. Surtout ceux qui ont à cœur le témoignage du Seigneur, qui aujourd'hui est extrêmement attaqué par l'ennemi, sur le plan de notre responsabilité, car nous devons faire la distinction entre ce qui appartient à notre responsabilité et ce que le Seigneur maintiendra, quelle que soit l'infidélité du porteur du témoignage. Le Seigneur se conservera toujours un témoignage dans ce monde, mais il peut se faire qu'il ait à changer les porteurs de ce témoignage. S'ils sont devenus trop infidèles, il les met de côté et il les remplace par d'autres porteurs. N'oublions jamais cela, car cela nous tient à ses pieds dans l'humiliation vraie, dans la confession, pour que la grâce nous soit faite d'être maintenus aussi faibles que nous soyons comme porteurs de ce témoignage qui a tant de prix pour son cœur, parce que ce témoignage est à sa personne glorieuse et à son œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Il est résumé dans sa personne, on peut le dire, Christ crucifié, Christ glorifié, Christ qui vient chercher son Église, cette venue étant annoncée dans les quatre dernières églises du chapitre 3. Eh bien, le Seigneur se maintiendra toujours des témoins sur cette terre, que la grâce nous soit faite d'en faire partie jusqu'au bout de notre course terrestre.
En commençant à parler à cette assemblée de Smyrne, le Seigneur va se présenter, comme on l'a déjà dit, comme celui qui est le premier et le dernier, celui qui a été mort et qui a repris vie. À la fin du chapitre premier, quand il parle à Jean, il lui dit au verset 17, « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. » Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Le premier et le dernier, c'est la gloire de sa divinité. Celui qui est mort et qui est ressuscité, c'est la gloire de sa rédemption. Et quand il parle à Smyrne, il lui rappelle qui il est dans sa divinité, celui qui a la main sur tout, le premier et le dernier. Et il lui rappelle ce qu'il a fait quand il est mort et qu'il a été ressuscité, il est celui qui est vainqueur. Et il va donc, dans un premier temps, dire à Smyrne, je connais, je sais où tu en es. Un peu comme cela faisait certainement à ses croyants quelque chose comme s'il leur disait, tu vois, tu as ta tribulation, eh bien je suis là avec toi, je connais. Et puis, il les avertit quant aux ennemis, l'esprit juif, ceux qui se disent être juifs, ce qui, très tôt dans l'histoire de l'Église, s'est montré, l'esprit légal pour acquérir le salut, l'esprit légal pour la marche chrétienne. Très tôt, on a vu cela déjà dans le livre des Actes, dans l'Épître aux Galates. Et puis, aussi, une des conséquences de cet esprit juif, ça va être le cléricalisme. On va mettre des hommes entre Dieu et ceux qui croient. Et puis un autre côté de cet esprit juif, ça va être aussi les persécutions. Et déjà dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 14, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi ont souffert de la part des Juifs, qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont chassés par la persécution, qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont opposés à tous les hommes. Et donc, il prévient les croyants de Smyrne et il va aussi les exhorter, ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Alors, ils savent que le Seigneur est tout à fait au courant de leur situation. Il les exhorte pour tenir ferme. Et il leur dit aussi que, eh bien, moi qui suis le premier et le dernier, j'ai mesuré cette tribulation. Tu vas avoir une tribulation de 10 jours. C'est quelque chose qui est mesuré. Il n'y aura pas 11 jours, il n'y en aura pas 9, il y aura 10 jours. Et puis à la fin, alors, il va encore l'exhorter, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais il l'exhorte d'une manière merveilleuse, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est moi qui vais te la donner. La couronne de vie, c'est le Seigneur lui-même qui va la donner à celui qui sera fidèle. Quelle chose extraordinaire. Celui qui est vainqueur va honorer celui des siens qui a vaincu.
Ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse ont été des chapitres extrêmement importants pour tous ceux qui se sont interrogés sur le mystère de l'état de la chrétienté dans ce 19e et ce 20e siècle. Comment se fait-il que ces chrétiens, ces croyants, ceux qui ont la vie, puissent ainsi se disperser dans autant de communautés, autant d'églises? Comment se fait-il que ce que le Seigneur avait bâti sur lui-même, sur ce qu'il était en lui-même, le Fils du Dieu vivant, comment se fait-il que il ait pu laisser les choses aller ainsi? C'était effectivement un grand mystère, un grand étonnement de voir que des croyants puissent ainsi se diviser de telle manière. Alors que le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul, dans de nombreuses épîtres, il met en relief le fait que les croyants sont unis en un corps. Alors, nous avons justement, dans ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, en quelque sorte une illustration prophétique de ce qui allait arriver pour que le fidèle ne mette pas en doute la parole du Seigneur, pour que le fidèle ne perde pas ses marques, pour que le fidèle puisse se situer dans ce milieu mouvant. Est-ce que ces épîtres qui ont été écrites donc à cette Église nous concernent, nous, au XXe siècle? Est-ce qu'elles nous concernent ou est-ce qu'elles concernent des Églises qui dataient d'il y a bientôt 2000 ans? Alors nous voyons, ceci est très, extrêmement important pour chacun de nous, pour que nous puissions y trouver la preuve que cela nous explique la situation actuelle. Le livre de l'Apocalypse est un livre de prophétie. Cela est dit au verset 3 du premier chapitre. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. L'apôtre Jean n'a pas écrit ses épîtres à la seule destination historique de ceux qui vivaient à l'époque. Cela avait une portée prophétique, c'est-à-dire une portée future. Deuxièmement, comme on l'a fait remarquer, ces épîtres sont situés dans la période des choses qui sont. Et la période des choses qui sont s'arrête justement au chapitre 4, au verset 1er, où il nous est dit « Après ces choses, je vis ». Alors, nous avons donc les choses qui sont qui vont jusqu'au verset 22 du chapitre 3. Donc, c'est tant que des croyants sont présents sur la terre, tant que des vrais chrétiens sont présents sur la terre, ils sont en quelque sorte concernés par ces sept églises. L'une des sept, probablement. L'état de l'une des sept. Troisième point, ce n'est pas, bien sûr, sans dessein que le nombre de sept églises, on l'a déjà fait remarquer, tant dans le choix des églises que dans leur nombre. Ce nombre sept, nous sommes suffisamment familiers de l'Écriture pour savoir que c'est la totalité de l'économie chrétienne qui est envisagée dans cette description ô combien différente de l'une à l'autre des églises. Donc, il n'y a pas de cas qui échapperait à cette description. Ceci est de la plus haute importance également. Alors, cela nous amène à nous poser une deuxième question fondamentale. Est-ce que cette église nierait l'unité du corps? Est-ce qu'il y aurait en fait des états différents qui coexisteraient et qui nierait l'unité du corps? Voilà la question que l'on peut se poser. Or, nous remarquons que les lettres sont écrites à des églises spécifiques, nous pourrions dire des assemblées locales, des expressions ou des représentations locales de l'assemblée universelle. Donc, le jugement ne juge pas tant l'ensemble de l'assemblée que sa représentation. Par contre, il peut, comme on l'a déjà dit, il peut supprimer ou ne plus reconnaître l'expression ou la représentation locale de l'Assemblée, qui est bien sûr, qui ne peut être qu'imparfaite, puisqu'elle est, c'est une simple expression ou une simple représentation, mais il peut l'ôter si, d'une manière ou d'une autre, elle ne représente plus suffisamment bien à ses yeux l'Assemblée universelle. Nous avons d'ailleurs un cas où la lampe manifestement n'existe plus. C'est dans le cas de Laodicée, la dernière des églises qui est considérée. Donc, ceci concerne, le jugement concerne les expressions locales ou les expressions temporelles à un moment déterminé de l'Assemblée universelle. Et ceci ne met pas en doute, il est important d'insister sur ce point, car c'est une vérité qui est souvent battue en brèche. Ceci ne met pas en question et n'annule pas la vérité du fait extraordinaire que tous les croyants, où qu'ils soient, dans quelque milieu qu'ils soient, sont unis ensemble en un seul corps, dont Christ est la tête glorifiée dans le ciel. Par contre, la façon dont ils vivent, dont ils représentent localement, dans leur communauté, Cette assemblée universelle, la façon dont ils sont reconnus, dont ils sont une lampe, pour prendre l'expression que l'apôtre utilise, là est sujette au jugement et à l'appréciation du Seigneur. Alors le troisième point sur lequel je voulais aborder concernait Éphèse et les trois premières églises. Nous savons que l'assemblée est à la fois le corps de Christ, la maison de Dieu, et troisième dimension de cette assemblée, elle est l'épouse ou la famille, les deux ayant beaucoup de connexions, la dimension affective. Et on serait peut-être tenté d'insister davantage sur l'expression du corps, vérité de la plus haute importance, liée à Christ lui-même, certainement, l'expression de la maison, vérité doctrinale, pureté qui convient à la maison de Dieu, et peut-être négliger la troisième dimension, celle de l'épouse, celle de la famille, cette dimension que nous pourrions dire affective, ô combien précieuse, que nous rappelons, sinon tous les dimanches, presque tous les dimanches, quand nous participons à la communion sous les deux espèces. Eh bien, nous voyons le point, nous remarquons dans cette lettre à Éphèse, combien l'absence ou la menace de disparition de cette troisième dimension, celle liée aux affections, celle liée aux amours pour le Seigneur, à l'amour pour le Seigneur, et donc les uns pour les autres, cette dimension affective, nous voyons combien elle est importante. Puisque c'est le seul cas où il est mentionné le fait que le Seigneur menace d'enlever la lampe de son lieu. Alors, ceci nous interpelle tous. Attachons-nous suffisamment d'importance à cette troisième dimension? Est-ce que véritablement nous portons les uns pour les autres cet amour, le même que celui que nous portons pour le Seigneur? Et si effectivement nous aimons le Seigneur, nous aimerons tous ceux qui le représentent, tous ceux qui sont à lui, comme l'apôtre Jean le développe abondamment dans ses épîtres. À ceci, et je terminerai sur cette simple citation de Jean 13, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est bien un signe de reconnaissance, un signe de témoignage, si vous avez de l'amour entre vous. Dans les deux autres épîtres, celle de Smyrne et celle de Pergame, ce qui manque, c'est pour Smyrne, quoique cela ne soit pas spécialement mentionné, mais nous sentons bien qu'il y a dans cette assemblée deux clans. Il y a les juifs, ceux qui se disent être juifs, et il y a les autres. Nous sentons bien qu'il y a déjà les germes de cette négation pratique du corps de Christ, de l'unité du corps. Et dans la troisième, alors, c'est la maison de Dieu qui est en cause. Des fausses doctrines, de nombreuses fausses doctrines sont là. Nous voyons que, en quelque sorte, elle habite où est le trône de Satan. Peut-il être question là d'une maison de Dieu quand on a ces caractères-là? Nous voyons donc déjà, dans les trois premières assemblées, l'expression des lacunes, des déficits essentiels portant sur les trois dimensions de l'assemblée elle-même.
Indéniable que la lampe a été ôtée à Éphèse, il n'y a pas de doute. On retrouve aujourd'hui les vestiges de cette ville, mais plus rien de cette assemblée. Et les personnes qui se sont penchées sur ces ruines ont fait des constatations extraordinaires et qui confirment plutôt que la lampe a été ôté de son lieu, c'est-à-dire la représentation visible en témoignage de l'Assemblée. Chers frères, on peut nous dire, l'Assemblée n'est plus un rempart derrière lequel nous sommes à l'abri du mal. Le mal a germé dans l'Assemblée, a fait des ravages dans l'Assemblée, et est parvenu à ce fait que l'Église, comme lampe, a été ôtée. C'est une vérité affligeante sans doute, mais elle correspond au fait que toujours l'ennemi a essayé de nous ravir la substance même du témoignage qui était entre nos mains, et ne nous laisser qu'une caricature, une forme extérieure. Nous continuons comme nos pères, comme autrefois, il nous semble que tout est resté semblable, mais en fait, peu à peu, cet héritage s'est dissipé, et il ne nous reste qu'une manifestation extérieure que le Seigneur doit juger, indiscutablement. Et tout ce qui nous associe, tout ce qui nous identifie au monde, quel que soit son aspect,
est la source immanquable, inévitable, de la perte de puissance et de la ruine du témoignage. Tout ce qui nous associe au monde, quel que soit son aspect. Il y a des aspects qui n'en sont pas seulement des aspects repoussants, mais il y a des aspects séduisants. Alors, quand nous ouvrons l'église à Smyrne, nous sommes au second siècle. Et historiquement, il convient de rappeler que le Seigneur a opéré par la discipline, par l'épreuve, pour enrayer précisément dans le cœur des siens cette tendance, parce que nous avons tous cette tendance en nous, de nous écarter, de nous distancer, de nous sortir du chemin de fidélité dans lequel nous avons commencé notre route. Il y a cette tendance dans notre cœur. Notre cœur est foncièrement mondain. Alors, le Seigneur a envoyé l'épreuve à Smyrne pour enrayer, pour essayer d'arrêter ce courant qui entraînait l'Église, hélas, sur un chemin qui va aboutir, nous l'avons entendu, à la Odyssée, comme il en est aujourd'hui. Alors, historiquement, il faut se rappeler que vers l'an 165 de notre ère, il y avait un homme de Dieu, Polycarpe, un évêque à Smyrne, qui a laissé une histoire bien remarquable. On peut la trouver dans l'église ou l'assemblée. Et les persécutions se sont abattues sur l'église. Pourquoi? En fait, l'église était déjà séparée du monde. Et elle s'était déjà manifestée de telle manière que l'empereur, Marc Aurèle en l'occurrence, avait tout lieu de se méfier des chrétiens qui refusaient de porter honneur à l'empereur, qui étaient marginaux sur beaucoup de points. Et lorsqu'il était en train de combattre sur le Danube, en raison des attaques dont l'Empire était déjà l'objet, les chrétiens, dans leur passivité, étaient une gêne pour lui. C'était un corps étranger dans l'enceinte de l'Empire. De sorte qu'il faut trouver là la raison pour laquelle la persécution s'est abattue sur eux de la part de l'Empire. Et nous rappelons que les Juifs, c'est trop long d'entrer dans les détails, mais il faut se rappeler que les Juifs bénéficiaient de statuts privilégiés au milieu des Romains. Les Juifs, dans ce temps-là, se sont identifiés à l'Empire romain, au monde, pour persécuter les croyants, persécuter les chrétiens. Ceux qui se disent être juifs, ceux qui prétendent à une position de témoignage depuis le commencement, mais ils ne le sont pas, ils n'ont qu'une forme. Eh bien, nous avons cité Polycarpe, c'est intéressant pour le lecteur et pour ceux qui entendent, de lire cela. Ce cher croyant est mort sur un bûcher. Et vous savez, chers amis, les Juifs étaient les premiers à jeter des fagots pour alimenter ce bûcher. Polycarpe, un bien-aimé frère, fidèle, et qui est mort comme martyr, joyeusement pour le Seigneur. Et le type du croyant fidèle qui était persécuté dans ces jours-là à Smyrne, ville importante, ville privilégiée, sur laquelle on peut dire beaucoup de choses, et dans laquelle il y avait une assemblée florissante. Eh bien, Satan s'est montré là comme l'ennemi persécuteur. Nous venons de l'entendre dans l'église à Pergame, c'est tout différent. Là, Satan va se montrer comme l'ennemi, l'adversaire séducteur, non plus l'adversaire persécuteur, mais l'adversaire séducteur. Vers l'an 330, lorsque l'Empire s'est joint au christianisme par le fait de la conversion de Constantin, les batteries de l'ennemi ont été déplacées, c'est-à-dire que les boulets n'étaient plus les mêmes. Et au lieu de se montrer l'adversaire des croyants, il a montré un visage agréable, les a séduits en leur disant « Mais vous voyez, vous avez maintenant une place particulièrement privilégiée dans l'Empire, nous respectons votre foi, nous acceptons
votre religion et nous allons nous unir avec vous, ce qui fera un ensemble prodigieusement favorable pour vous et pour nous. Voilà le piège dans lequel les croyants sont tombés à Pergame. Pour dire, chers amis, dernier mot que nous ajoutons, quelles sont les conditions les meilleures pour le croyant? Quelle est la condition la meilleure pour l'Église dans ce monde? Ce n'est pas très populaire, mais suffit de lire l'histoire de David. Et nous avons dans 2 Samuel 22 l'histoire de David au moment où ses ennemis sont mis de côté. La maison de Saül est balayée de la scène et David va chanter un cantique. Vous retenez cela. Au moment où l'épreuve de David trouve son terme. Et ce cantique, c'est un cantique d'une élévation extraordinaire. On peut lire 2 Samuel 22 ou le psaume 18 qui en est la représentation. C'est un psaume d'une richesse exceptionnelle. Ce n'est pas David qui parle dans sa perfection pour Dieu, dans la perfection qui caractérisait ses voix devant Dieu. Mais nous sentons bien en lisant ce psaume ou 2 Samuel 22 qu'il s'agit du Seigneur. Donc David s'élève à ce niveau d'être l'organe pour nous parler du Seigneur dans son abaissement, dans sa mort, dans sa résurrection et dans sa gloire à venir. Nous ouvrons le chapitre suivant, 2 Samuel 23. Qu'est-ce que nous avons dans Samuel 23? C'est le même David qui écrit. Et à quel moment? Il faut que nous soyons clairs et comprendre ces vérités élémentaires, parce qu'elles sont très importantes. Qu'est-ce que David nous dit dans 2 Samuel 23? Et à quel moment? À la fin de sa vie, après son règne, après la domination dont il a joui, après les bienfaits qui ont été entassés sur lui. Et qu'est-ce que David va nous dire à ce moment-là? Ce n'est plus un David courant d'une caverne dans l'autre pour échapper à l'épée de Saül, errant dans les montagnes, manquant de tout. C'est un homme privilégié, puissant, qui a un royaume sous ses pieds. Et que fait-il, chers amis? Pour que nous soyons d'accord sur ce point, quelle est la période la meilleure dans la vie d'un croyant? Ce n'est pas agréable de dire cela, et nous ne nous présentons pas comme exemple, chers amis, soyez bien sûrs. Mais quelle est la meilleure période, la meilleure partie de la vie d'un croyant? Quelle est la meilleure partie de la vie de David? Eh bien, dans 2 Samuel 23, chers amis, c'est un croyant qui pleure. Ce n'est plus un croyant qui chante et qui s'élève aux hauteurs de l'Esprit de Dieu pour parler de Christ. Mais il doit pleurer sur sa maison. Sur sa maison. Sur la ruine de sa maison. L'homme haut placé, le doux psalmiste d'Israël, doit verser des larmes. Quoique ma maison ne soit pas ainsi avec Dieu. David, dans les jours de sa gloire, chers amis, a connu les ruines les plus grandes. Et il ne sera plus un type de Christ dans ces jours-là, il sera un type du résidu d'Israël qui va nous suivre demain sur la scène. Et encore un mot, quoi qu'il en soit, chers amis, nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu n'oublie jamais son dessein. Cependant, dit David, comment termine-t-il? Il pleure sur sa maison, la ruine qui est intervenue, les fautes qu'il a commises, alors qu'il était un homme puissant, que tout était ordonné autour de lui de manière telle que le cœur était satisfait. Cependant, dit-il, il a fait avec moi une alliance éternelle sur laquelle Dieu ne revient pas. Et nous répétons ce que nous avons dit. Sans doute David a dû être discipliné, mais Dieu n'oublie pas, chers amis, le propos qu'il a formé. Et à l'égard de l'Église, il en est ainsi. Elle sera disciplinée sans doute, elle sera visitée comme Smyrne par la persécution violente, elle sera entraînée dans la licence de Pergame, mais Dieu est au-dessus de tout. Et le Seigneur va se présenter à lui-même, l'Église, la véritable Église, en dehors du monde, loin de toute souillure, digne de lui.
C'est là en effet l'Église que le Seigneur va se présenter, l'Église corps de Christ, celle dont l'apôtre Paul nous dit que c'était ce mystère qui était caché dès les siècles en Dieu. Au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. Celle aussi dont il nous dit au chapitre 12 de la première aux Corinthiens que nous avons été baptisés d'un seul esprit, pour elle un seul corps. Il faut bien réaliser que dans ces 7 églises, bien que nous ayons en effet un tableau de l'Église universelle, c'est malgré tout l'aspect de l'Église responsable qui est devant nous. C'est l'Église qui doit porter témoignage et qui, hélas, ne répond pas à ce témoignage dans les diverses circonstances. Nous voyons que bien souvent, elle est là et elle est trouvée défaillante. Donc, lorsque nous avons à considérer chacune de ces phases, de ces expressions, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'Église universelle, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'angle du témoignage et le côté de la responsabilité. Responsabilité de l'Église entière et responsabilité, bien sûr, des assemblées et d'une assemblée locale en particulier, et notre propre responsabilité à chacun, bien que les exhortations et le jugement qui est porté nous montre que le jugement est beaucoup plus général et qu'il va en fait jusqu'au jugement de l'Église apostate à la fin, à Laodicée, qui va devenir la Grande Babylone. Donc n'oublions pas ce côté de la responsabilité. Et à ce sujet, je voudrais rappeler simplement, puisque nous abordons maintenant Pergame, nous avons la notion de l'ange de l'Assemblée qui est à Pergame. Alors nous avons vu qu'il y avait 7 lampes d'or, et le fait que ce soit en or nous montre bien que l'Église responsable garde l'empreinte de son origine divine, c'est l'or. Elle a été établie en justice divine, et elle garde, quelles que soient ses défaillances devant Dieu, cette empreinte de son origine divine. Et la lampe aussi nous dit qu'elle aurait dû porter la lumière. C'est encore ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des porteurs de lumière. Lampe porte lumière. Et elle est destinée à répandre la lumière sur la terre. Et d'autre part, alors, nous avons cette notion de l'ange de l'Assemblée qui est à Pergame, comme la première épître a été adressée aussi à l'ange de l'Assemblée qui est à Éphèse. Et ainsi de suite pour les 7 églises. Qu'est-ce que l'ange? Eh bien, on a pu dire que c'est l'Assemblée dans son caractère de responsabilité, justement. Et que l'ange ne saurait être absolument séparé de l'Église, de l'Assemblée elle-même. Preuve, par exemple, au chapitre 2, ici devant nous, et au verset 4. « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Ce n'est pas seulement une personne qui abandonne ou un ensemble de personnes qui abandonnent le premier amour. Non, c'est l'ensemble de ce qu'était l'Église responsable à Éphèse. Et puis, c'est, comme nous l'avons vu aussi, une manifestation de ce fait que l'Église tout entière, bien sûr, a manqué sur ce plan-là. Et ce qui fait que, également au verset 10 du même chapitre 2, « Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir, nous voyons les fidèles éprouvés, et sois fidèle jusqu'à la mort. » Il est bien certain que là aussi, c'est l'Assemblée tout entière qui est vue sous le symbole de l'ange. Alors donc, qu'est-ce que l'ange? Eh bien, l'ange, en grec « angelos », ça signifie « messager » ou « représentant ». Et puis, que dit le Seigneur un peu plus haut, n'est-ce pas, au verset 20 du chapitre 1er, « Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées ». Alors, il y a aussi ce caractère d'étoile. Et une étoile, quel est son rôle? C'est justement de porter la lumière, là encore. Et puis aussi, un symbole d'autorité dépendante. Dans l'ensemble de la création, n'est-ce pas, les étoiles sont vues symboliquement dans ce livre, en particulier de l'Apocalypse, comme représentant des autorités dépendantes. Alors, nous pouvons bien nous poser la question, qu'est-ce que l'ange? L'ange n'est donc pas un homme ni un clergé, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que là, ce clergé qui s'est déjà manifesté, comme nous l'avons vu, et qui se manifeste spécialement à Pergame, puis ensuite à Thyatire. Non, l'ange est un personnage symbolique qui représente l'assemblée locale devant Dieu. Alors, s'il n'est ni un homme, ni un clergé, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est un ensemble moral responsable devant Dieu. Et c'est pourquoi nous disions tout à l'heure que c'est l'assemblée dans son caractère de responsabilité. Mais en fait, c'est l'élément responsable. Tous en principe, de fait, ceux qui portent plus particulièrement la responsabilité de l'assemblée. Et quels doivent être ceux qui portent plus particulièrement ce caractère de responsabilité? Eh bien, c'est, bien sûr, il y a tous ceux qui composent l'assemblée qui sont responsables, mais est-ce que le Seigneur ne nous parle pas aussi de ceux qui doivent veiller sur le troupeau, de ceux à qui le Seigneur confie une charge d'ancien? Et nous le voyons bien, par exemple, en acte 20, ça a été cité en rapport avec l'assemblée d'Éphèse. Nous avons en acte 20, n'est-ce pas, cette pensée, l'apôtre Paul qui réunit les anciens et qui leur dit, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. » Et puis on voit aussi dans la première à Timothée, au chapitre 5, nous connaissons ces passages, on voit que les anciens sont là au chapitre 3 de la première à Timothée d'abord, et puis ensuite au chapitre 5, au verset 17, que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Et ce sont en fait les conducteurs de l'épître aux Hébreux. Et il y a là un enseignement pour nous. Est-ce que, frères en particulier, est-ce que nous avons fait l'acquis de la charge que le Seigneur nous avait confiée? C'est à chaque assemblée locale de considérer ses propres exercices et de bien réaliser où en est l'ordre de Dieu et où en est, quelle est la vie de l'assemblée locale et quelle est, si cette surveillance, si on a vraiment veillé sur le troupeau, si on l'a vraiment nourri, c'est les deux choses qui doivent caractériser un ancien d'envoi dans la première épître de Pierre. Il est là d'abord pour nourrir le troupeau, pour l'enseigner dans l'amour. Il est là pour veiller sur le troupeau, sans dominer sur un héritage, mais comme on le voit avec amour et avec ce sentiment aussi. Première épître de Pierre, chapitre 5, n'est-ce pas, surveillant, non point par contrainte, donc c'est l'amour qui va le caractériser dans cette charge, n'est-ce pas, non pas une contrainte, en aucune manière, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré. Et ensuite, ni comme dominant sur des héritages, mais comme en étant les modèles du troupeau. Et c'est ce troisième caractère que j'avais devant moi, nourrir le troupeau, le paître, veiller sur le troupeau et être les modèles du troupeau. Est-ce que nous avons ce sentiment que le Seigneur nous a demandé à tous d'être des modèles, mais aussi, plus particulièrement à certains, d'être les modèles du troupeau? Si nous le sommes, eh bien nous pouvons être certains que les générations qui nous suivent et qui ont les yeux sur nous sauront en tirer les conséquences et nous respecterons et nous ferons confiance.